sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et si vous nous rejoignez, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible. Nous sommes le jeudi 26 mai. Un autre jour est possible, votre réveil culturel, préparé avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, réalisé par Thomas Duterre, avec aujourd'hui à la technique Jacques Hubert. Dans un instant, on retrouve Marion Fontaine. Depuis lundi, elle nous raconte l'histoire de la classe ouvrière française. Dans un instant, le quatrième épisode. En deuxième partie, je serai avec Noël Herbe, écrivain, pour son journal édité chez l'Arbalète, Objet rejeté par la mer. Et comme Noël Herbe est un spécialiste des films d'Éric Rohmer, il nous parlera aussi de la sortie de tous les courts-métrages d'Éric Rohmer au cinéma. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec nous.
Le monde ouvrier français, une histoire en cours avec Marion Fontaine.
La classe ouvrière face à la société de consommation, quatrième épisode avec Marion Fontaine, bonjour.
Bonjour.
À quel moment la classe ouvrière, ce qu'on a appelé la classe ouvrière depuis le début de cette série, depuis lundi, va-t-elle pouvoir se hisser à un stade où elle peut demander d'être intégrée à cette société de consommation et de profiter de toutes les richesses qu'elle a grandement aidé à installer dans cette société française?
Alors sans doute à partir de la fin des années 50 avec une accélération dans les années 60 et jusqu'au début des années 70. Bon d'abord parce que effectivement ce sont après, en gros on peut dire que les années 50 sont encore très largement des années de reconstruction, mais qu'à l'inverse les années 60 et disons jusqu'au milieu des années 70 sont des années de modernisation, de prospérité.
Et on verra aussi d'acquis sociaux.
Sont aussi des années d'acquis sociaux importants. C'est aussi le dernier grand moment d'industrialisation en France, avec un développement notamment d'industrie dans des zones qui n'en avaient pas beaucoup jusque-là. La Normandie, la Bretagne, Moulinex, Chantelle vont s'installer en Normandie. Donc la classe ouvrière, elle continue à grossir. Et effectivement, il y a toute une série de mesures. Bon, par exemple, l'adoption du salaire minimum à partir de 1950, les effets progressifs de la sécurité sociale qui rentre en vigueur en 1945, mais dont la généralisation est très lente, qui vont contribuer d'abord à stabiliser ce monde ouvrier. On peut dire que toute la tension de la condition ouvrière pendant très longtemps, ça a été de lutter contre une précarité. Alors une précarité qui, à l'époque, veut dire que le moindre accident de la vie peut vous faire basculer dans la misère. À partir des années 1950, bon, avec les transferts sociaux, avec l'instauration du salaire minimum, avec aussi le fait qu'on est en situation de quasi plein emploi, les ouvriers sortent ou du moins sortent pour partie de l'insécurité et peuvent commencer à goûter aux fruits de la croissance. Bon, ça, on a des éléments très clairs qui nous le disent, c'est-à-dire qu'on peut voir très bien, à partir de la fin des années 50, l'équipement des ménages ouvriers progresser d'abord en télévision, ensuite en lave-linge, réfrigérateur, en voiture. On voit aussi que c'est véritablement avec les années 60 que les ouvriers commencent à partir en vacances. Bon, sans doute les congés payés datent-ils de 1936, mais en réalité les ouvriers ne partent quasiment pas en 36-37. C'est vraiment à partir des années 60 que, avec le camping, avec d'autres choses, les ouvriers partent en vacances. Ce qui inquiète énormément une partie des leaders du mouvement ouvrier. Cette intégration des ouvriers dans la société de consommation que beaucoup de représentants socialistes, de représentants communistes, de représentants syndicaux voient, hein, ils en sont très très conscients.
Et certains l'approuvent parce que ça fait autant de travail d'assurer, parce qu'il faut continuer justement à produire toute cette nouvelle consommation.
Ça fait autant de travail assuré, en même temps certains craignent. Il y a des textes très intéressants chez des socialistes ou même chez ce qui va devenir la CFDT. Ce qu'ils craignent en même temps, c'est que ces ouvriers consommateurs perdent, si l'on peut dire, de leur combativité, ne rêvent plus finalement que d'acquérir qui une télévision, qui un réfrigérateur, qui une machine à laver, et finalement que plus ils deviennent consommateurs, moins ils sont révolutionnaires. Bon, ce qui d'ailleurs...
Bravo Marion Fontaine, j'attendais le moment où vous allez dire ils vont s'embourgeoiser, mais vous ne l'avez pas dit, mais on a compris.
Oui, c'est bien ça. Et effectivement, d'ailleurs...
Et tant mieux, moi j'aurais tendance à dire et tant mieux.
Ah bah de toute façon, il n'y a pas... effectivement, il n'y a guère que le Parti communiste dans les années 50 à pouvoir oser affirmer que la classe ouvrière se paupérise. Bien entendu, elle ne se paupérise pas. Au contraire, effectivement, elle sort de la plus grande insécurité. Et évidemment, tant mieux. Et encore, ce processus est-il reste-t-il partiel? C'est-à-dire, on a quelquefois tendance à considérer que l'inégalité des statuts, des salaires est une donnée très contemporaine. En réalité, bon, les ouvriers sortent avec des rythmes extrêmement variables de la pauvreté. Ça dépend du type d'entreprise dans lequel vous travaillez, évidemment, grosses entreprises ou petites entreprises. Ça dépend du fait que vous ayez deux salaires ou non. Ça dépend des revenus, des transferts sociaux, des allocations, etc. Donc c'est une progression variable qui est moins rapide que dans d'autres groupes, mais c'est une progression quand même. Et évidemment, bon, sauf les purs esprits révolutionnaires, c'est évidemment quelque chose qui ne peut que qu'on ne peut estimer que positif.
Mais vous, avec le recul d'une historienne, Marion Fontaine, que dites-vous? Vous dites que c'est plutôt bien parce que ça les consolide pour demander plus de droits, pour avoir plus d'assises, le fait qu'ils aient plus de moyens, hein, d'être en plus acteurs, d'être acteurs dans la machine économique, mais être aussi acteurs dans la société de consommation. Ou vous dites au contraire que parce qu'ils commencent à rentrer dans cette société de consommation, ils vont avoir tendance à préserver leurs acquis et donc à faire quelques compromis avec
Pense que globalement, bon, toujours si on en revient aux lectures d'E.P. Thompson, je pense que de toute façon, tout ce qui permet à des êtres humains, ouvriers ou pas, de vivre mieux est de toute façon toujours mieux que ce qui les conduit à vivre moins mal. Donc que les ouvriers vivent mieux, je pense qu'évidemment, c'est un des très grands acquis des années 60-70, que ça n'empêche d'ailleurs pas, du moins dans un premier temps, la combativité ouvrière, puisque finalement le plus grand mouvement de grève que la France ait jamais connu, plus fort que 1936, c'est 1968. Donc c'est un monde ouvrier qui est alors au sommet de sa puissance et qui, là, effectivement, conquiert toute une série de nouvelles avancées. En fait, si on regarde bien ces avancées, notamment législatives, elles vont se poursuivre quasiment jusqu'au milieu des années 70. Il y a des avancées en matière de congés, troisième, quatrième semaine de congés payés. Il y a des avancées en matière d'augmentation de salaire régulière. C'est à ce moment-là aussi que tous les ouvriers sont mensualisés. Donc ils sont plus payés à la semaine, mais ils sont payés au mois. Il y a aussi de vraies avancées en matière de sécurité au travail, de médecine du travail. On progresse beaucoup. Donc ce monde ouvrier, il est jusqu'au milieu des années 70 parce qu'il est nombreux, parce qu'il est solide, parce qu'il y a plein emploi, et c'est quand même la raison la plus importante, il est capable non seulement de revendiquer, mais d'obtenir effectivement satisfaction sur ses revendications, et de manière intéressante, pas simplement sur des revendications très quantitatives, mais aussi sur des revendications liées à ce que la CFDT et d'autres appellent dans les années 70 la qualité de la vie et qualité de la vie au travail.
Alors Marion Fontaine, j'ai remarqué que depuis hier, contrairement aux deux premiers épisodes, vous ne faites plus de comparaison avec l'exemple britannique. Et je veux bien l'entendre parce que quand vous racontez cette histoire à partir des 30 glorieuses, ce monde de la classe ouvrière en France, il est à peu près identique à ce qu'on a pu voir aux États-Unis, par exemple.
À ce qu'on a pu voir aux États-Unis, à ce qu'on a pu voir en Grande-Bretagne. Finalement, bon, c'est aussi ce qui est intéressant. Je pense que bon, c'est toujours un problème très français de rester enfermé, de croire que un certain nombre de transformations sociales ne concernent que l'Hexagone et n'ont absolument aucun équivalent dans tous les autres pays. Non, cette transformation-là, elle vaut, j'ai envie de dire, pour l'ensemble de l'Occident industriel. Et c'est pas d'ailleurs forcément les Français, je veux dire les sociologues ou les historiens français qui l'ont le mieux perçu. Bon, quelqu'un qui perçoit par exemple très bien à la fois le contenu de la culture ouvrière et la manière dont elle change avec la société de consommation, c'est le sociologue britannique Richard Hogarth, qui est décédé il y a maintenant 2 ans, et qui, dans son livre magnifique, traduit en français sous le titre « La culture du pauvre », qui paraît en France en 1957, montre bien à la fois ce qui fait qu'il existe une culture ouvrière, pas la culture d'autres classes sociales, et en même temps il montre bien comment elle se transforme. Hogarth a notamment des passages très bien, très drôles aussi, sur le rôle que joue la nouvelle presse illustrée, le rôle que joue la chanson de variété. On pourrait très bien transférer les analyses d'Hogarth aujourd'hui au rôle, des émissions, d'un certain nombre d'émissions de télévision, des réseaux sociaux. Ce que montre Hogarth, et de manière très intéressante, je pense plus de manière peut-être moins idéologique et plus fine que certains Français, c'est que cette culture ouvrière, elle est aussi en permanence en transformation.
Alors, parlons maintenant de l'exception française ou de ce qui fait que la France est un cas particulier dans ce vaste mouvement international. Je rappelle par exemple, Marion Fontaine, que vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Fin d'un monde ouvrier » qui revient sur une des catastrophes minières les plus meurtrières. C'était en 1974 à Liévin, et en 1974, c'était aussi l'année où on décide qu'on n'allait plus ramener d'immigrés pour ce monde ouvrier. Donc deux signaux qui nous rappellent d'une part que la France a fait appel à des immigrés, qu'il y a eu beaucoup d'immigrés qui sont venus et que ça risquait de devenir un problème. Qu'est-ce qui se passe en 1974 ?
Alors en 1974, il se passe plein de choses en somme. Alors il se passe d'abord que si on se place là pour le coup sur une échelle internationale et mondiale. Bon, il se passe que l'essoufflement de la croissance des pays industrialisés, qui en réalité était déjà sensible depuis quelques années, devient patent avec le premier choc pétrolier en octobre 1973, qui augmente considérablement les prix du pétrole et donc déclenche un ralentissement d'économie. Bon, c'est à partir de ce moment-là qu'on serait rentré dans une crise. Je pense pas que le terme crise, parce qu'une crise qui dure 40 ans, le terme n'a évidemment aucune signification. Disons qu'on rentre dans un changement de modèle économique marqué à la fois par un ralentissement de la croissance économique, par le fait aussi que la concurrence d'un certain nombre de nouveaux pays industrialisés, la Corée, Singapour, et bientôt la Chine et l'Inde devient de plus en plus patente. Donc on rentre dans une crise de la société industrielle. C'est pas simplement, je pense que ce qui se passe à partir de 1974, c'est pas simplement une crise économique, c'est une crise de la société industrielle. Alors effectivement, ça. Alors en même temps, on sait très bien que les crises de ce genre, elles n'ont pas. Les contemporains ne la sentent pas ou n'en sentent pas toute la portée immédiatement. Donc effectivement, en 1974, on prend un certain nombre de mesures. On décide de l'arrêt de l'immigration de travail de manière provisoire. À l'époque, on peut penser, avant d'y faire de nouveaux recours. La France a toujours beaucoup fonctionné comme ça. C'est pas la première fois en 1974 qu'on arrête l'immigration. Ça s'était déjà passé dans les années 30, et à vrai dire pour la même raison. C'est-à-dire qu'en gros, une fois encore, comme la France n'a pas assez d'ouvriers autochtones, elle n'en a jamais eu, la tactique a toujours été, en période de reconstruction, année 1920, année 1950-60, on fait appel aux migrants, parce que de toute façon, et une immigration organisée, alors dans le cadre des Polonais, c'est organisé directement avec le gouvernement de Pologne, dans le cadre par exemple des Marocains, qui arrivent nombreux à travailler dans les mines, c'est organisé directement avec le nouvel État marocain. Donc on fait venir des immigrés jusqu'à ce que, années 30 dans un premier cas, années 70, on constate que... on décide qu'il faut stopper les vannes. Bon, il y a aussi quelque chose de très, alors qui est pas nouveau, qui n'en est pas pour autant réjouissant. C'est-à-dire, on disait tout à l'heure que le monde ouvrier se stabilise dans les années 60-70. On aurait dû dire que ça n'est vrai que pour une partie du monde ouvrier, et que l'une des parties du monde ouvrier qui se stabilise moins ou beaucoup plus difficilement, ce sont les migrants. Dans les mines, on le voit bien, c'est-à-dire que dans les mines, en fait, en principe, les mineurs sont encadrés par ce qu'on appelle le statut du mineur, qui est voté en 1946, qui fixe tous les salaires, les congés, et qui est extrêmement protecteur pour les ouvriers. Les ouvriers marocains qui sont recrutés par les compagnies minières à partir des années 60 ne ressortent pas du statut de mineur. Donc ils n'ont pas du tout le même degré de protection et eux ont déjà encore des contrats intérimaires qui fait qu'on peut les renvoyer beaucoup plus facilement. Donc finalement, ce que va révéler aussi le milieu des années 70, c'est le fait que en gros, la couverture de prospérité qu'on pouvait apercevoir auparavant, elle devient plus... On s'aperçoit qu'elle déguise et qu'elle a toujours déguisé de vraies différences de statut. Bon, par ailleurs, on rentre dans une situation économique qui change considérablement. Bon, ce qu'on voit avec la catastrophe minière de Liévin le 27 décembre 1974, c'est aussi que l'industrie charbonnière est en train de disparaître. Ce qui frappe, c'est que à partir des années 60, et ça s'accélère dans les années 70, ce sont désormais des secteurs industriels qui vont disparaître.
Le monde change. Demain, pour terminer cette série, on parlera du délitement et pour terminer sur une note positive, sur le monde du travail, comment le reconstruire, comment imaginer le monde du travail aujourd'hui pour demain. À demain.
À demain.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et mon invité ce matin est Noël Herpe pour Objet rejeté par la mer aux éditions L'Arbalète de chez Gallimard. Bonjour Noël Herpe.
Bonjour.
Un nouveau volume de votre journal, c'est... Vous avez décidé de raconter votre vie après journal d'un cinéphile, après journal en ruine. Vous continuez à raconter votre vie au jour le jour, pourquoi ?
Bah en fait, c'est un peu des faux journaux, c'est jamais tout à fait, c'est un peu des journaux en trompe-l'œil, puisque journal d'un cinéphile, bah oui, puisque je n'écris pas en fait, je dois vous l'avouer aujourd'hui, c'est un scoop, je n'écris pas mon journal, je l'écris d'une manière rétrospective, après coup, où je le construis comme un récit. J'avais fait journal d'un cinéphile, par exemple, qui était la chronique d'un tournage, après coup, hein, c'était des éphémérides comme ça, mais que j'avais refabriqué. Ou bien alors, je vais prendre des archives de mon ancien journal, comme journal en ruine, mais qui sont des choses qui datent souvent d'il y a 10 ou 20 ans, qui donc ont acquis un statut d'archive qui m'intéresse. Là, en l'occurrence, j'ai décidé un peu de faire le journal de mon passé dans un premier temps. Donc, j'ai raconté des choses, des bribes de souvenirs qui me venaient un peu en
mais
désordre.
Mais oui, mais ce passé, il ressurgit dans un présent. Comme ça que je l'ai lu. Hein. Bon, moi, je l'ai lu vraiment au premier degré. Journal d'une année de Noël Herpe est une manière de laisser le passé le visiter et de pouvoir enfin parler de ce passé, voir votre relation avec la famille, avec votre classe sociale. Tout ça, c'est dans le livre. Mais moi, je pensais que c'était vraiment un journal.
Non, pas du tout. Parce que, je l'ai écrit de manière quotidienne et régulière. Mais petit à petit, ça s'est construit comme récit. D'abord parce que j'ai été voir mon éditeur. Je lui ai proposé cette première partie qu'il a trouvée intéressante. Mais il pensait que je pouvais aller plus loin. Et surtout, passer du passé, si j'ose dire, au présent. Et revenir vers le présent en tirant le fil rouge, notamment de ma relation avec ce jeune homme qui me ramène vers une certaine contemporanéité, vers l'autre, ouais. Vers l'altérité tout simplement, mais aussi vers l'instant présent. Car je crois que beaucoup d'écrivains, et j'en fais partie, je le crains, ont beaucoup de mal à vivre le présent pleinement et ont tendance à se réfugier un peu dans des châteaux en Espagne, dans la nostalgie, dans des représentations. Et le journal, tel que je l'ai pratiqué dans ce livre, me permet de me réconcilier avec le présent, c'est presque un exercice spirituel, une discipline, mais c'est quand même construit dans la mesure où j'ai quand même observé des mouvements. Il y a d'abord le mouvement dont je parle, d'écrire ma relation avec ce garçon, puis il y a un mouvement qui me mène encore plus loin vers une sorte de dépossession, puisque d'une part je déménage, je me dessaisis de mon appartement, et puis je visite d'autres appartements, j'erre dans les quartiers de Paris, je vais dans les squares, dans les cafés, et j'aspire comme ça à une sorte de dessaisissement, et de ce que traduit d'ailleurs le titre du livre, « Objet rejeté par la mer », hein, passer du stade du sujet qui... comme vous le disiez, raconte sa vie, il y a quelque chose de plus imprévisible qui serait s'ouvrir au monde extérieur, à l'imprévu que vous apporte le spectacle de la rue, tout simplement, les gens qu'on rencontre, des impondérables comme ça, qui ne rentrent pas dans le cadre du livre au départ et qui vont tout d'un coup me déborder.
Alors, est-ce que vous avez un souci particulier, c'est-à-dire est-ce que vous vous dites, Noël Herpe, j'ai envie d'être le témoin de mon époque, ou au contraire, vous voulez justement confondre les époques, parler de ce temps, le temps qui vous sépare de votre jeunesse et qui ressurgit aujourd'hui. Le temps, c'est aussi peut-être la différence d'âge qu'il y a avec votre amant, ou ce jeune amant fictif, on ne sait plus, qu'est Edouard. Est-ce que ça fait partie de votre problématique, si tant est qu'on puisse parler de problématique dans cet univers littéraire qu'est le journal?
Oui, ce rapport au temps, il est pour moi central. Il est d'arriver finalement à accepter le temps, à ne pas vouloir le maîtriser. Hein. Parce que je crois que c'est peut-être un défaut, là encore un défaut d'écrivain, je ne sais pas, en tout cas c'est le mien, de vouloir absolument à la fois me retourner vers le passé et en même temps tout prévoir. Ça va un peu ensemble au fond. Et là, le journal tel que je le conçois, tel que je le construis, donc comme un récit et comme une discipline, me permet quand même d'accepter l'instant plutôt que le temps. Et l'instant, c'est une variante, enfin c'est une dimension du temps qui est pas facile à appréhender, qui est celle de l'enfance au fond. J'ai l'impression qu'à travers ce journal, j'apprends à redevenir un enfant. Mmh. Et à regarder les choses sans forcément les juger, sans forcément les analyser, sans forcément leur prêter un sens, une structure, sans les enfermer dans un discours.
Mais je suppose que vous faites quand même un choix. Plutôt parler de cet événement, de cette personne, de cette chose vue et vécue que d'autres choses qui alimentent votre quotidien. Ce choix se base sur quoi?
Tout
sur
à
quel critère?
Bah, le choix, il se fait surtout après coup, en fait. C'est-à-dire que c'est là que ça s'apparente à un travail un peu cinématographique. C'est-à-dire que au fond, il y a quelque chose un peu de l'ordre du documentaire. Je glane au passage des images qui me traversent. Je suis dans un café, puis tout d'un coup, vous dites témoin de mon temps. Non, je prétends pas être un témoin de mon temps, mais c'est vrai que je suis dans un café, puis j'entends la serveuse qui parle de l'attentat de Charlie Hebdo qui a eu lieu la veille, qui sort tous les clichés qu'on a pu entendre à ce moment-là sur cette affaire. Voilà, je suis dans une réunion à la Cinémathèque, et puis tout d'un coup, j'apprends effectivement cet attentat. Tout ça. C'est une sorte de réfraction de l'événement à travers des petites choses perçues, vues, entendues, mais je ne prétends pas en faire un récit sur le moment, non, je me laisse, enfin, j'essaye le plus possible de me laisser traverser par ce qui m'arrive, sans choisir, c'est-à-dire que dès que ça me passe par la tête, bah, aujourd'hui, je vais écrire par exemple sur les gens qui ont visité mon appartement, alors je vais décrire un peu tous les gens qui ont visité mon appartement, et puis on verra bien où ça me mène, et j'essaie de m'interdire absolument de donner une forme romanesque à tout ça. C'est après coup, quand je monte, quand je fais du montage, donc au sens cinématographique du terme, que je redonne une dimension de récit, que je redonne une structure, et que je m'aperçois que ce journal écrit au fil de l'eau, eh ben ça raconte une histoire, mmh. Et qui est assez cohérente.
Vous fois. Injectez un peu de fiction, justement, quand vous faites le montage, comment on rajouterait de la musique
La fiction, il y en a, je crois, dans tout ce que j'écris, parce que je pense que je suis quelqu'un qui suis incapable d'écrire du roman. Je suis écrasé par des modèles romanesques qui ont été les miens dès mon adolescence, comme Mauriac, Julien Green, Bernanos, et bien d'autres.
Autant d'auteurs qui vous ont intéressé et à qui vous avez consacré des livres, hein. Donc vous avez fait dérouler des biographies
Ouais. J'ai vécu pendant des années un peu enfermé dans mon panthéon, ouais. Dans mon mausolée avec des grands hommes, des hommes illustres que j'admirais. Aujourd'hui, j'ai un peu envie de me faufiler à travers les ruines pour arriver à dire je. Et je le fais à travers effectivement des micro-fictions, des ébauches de fiction. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut plus trop faire autrement quand on écrit des livres. Je crois pas trop aux romans aujourd'hui, ça m'emmerde. Bon, franchement, je le dis franchement, la fiction romanesque française, elle ne me convainc pas. En tout cas, moi, j'en suis incapable. Par contre, l'idée de capter comme ça des micro-fictions du quotidien, la bonne femme qui me fait la gueule dans mon immeuble parce qu'elle m'a vu en talons hauts, ouais. Les gens qui m'accueillent lorsque je vais présenter un film en province et puis qui me font dîner dans une gargote infâme et ensuite qui me font des histoires incroyables. Voilà, c'est ces petites histoires comme ça qui tout d'un coup sont des petites scènes, des petits moments de récit.
Et alors
d'où renaît la fiction.
Alors cette mosaïque de petites scènes, qu'est-ce que ça représente? importante pour vous, Noël Herb. Est-ce que c'est un miroir pour vous? Est-ce que vous
dites que c'est un miroir brisé en tout cas, un miroir brisé dans lequel j'aimerais reconnaître peut-être ou mon visage ou mon histoire plus exactement.
Alors, on la reconnaît très bien, moi je pense, même si je vous connais pas très bien, mais
peut-être parce que vous avez lu les livres précédents.
D'une part, et puis d'autre part parce que vous avez l'honnêteté de décrire, y compris des scènes où vous n'êtes pas à votre avantage, hein. C'est-à-dire des fois vous êtes assez dur avec vous-même.
Bah, j'aime me moquer de moi-même, sinon ce serait pas drôle.
Et des fois c'est même pas au second degré, donc il faut un certain courage. Sinon, le cinéma est très présent dans votre vie. Est-ce qu'il l'est toujours? Vous avez sélectionné des films. Pourquoi vous avez écrit sur Sacha Guitry, René Clair, sur la critique de cinéma? Et bien sûr, avec Antoine Debecq, vous avez écrit le livre de référence sur Éric Rohmer. Le cinéma, il est toujours présent dans votre vie?
Plus que jamais. Il est présent dans ma vie déjà, mais il est présent aussi dans mes amours et dans mes écritures, puisque bon, je prépare une exposition pour la Cinémathèque française sur Clouzot. J'ai fait des entretiens avec Jean-Christophe Averty ici même à la radio, qui est pas tout à fait un homme de cinéma, mais qui est même plus que ça, ouais. On peut le dire. Et puis Rohmer est toujours là, puisque voilà, je présente ses films un peu comme un commis voyageur de la Romérie itinérante.
Alors,
je cesse de vanter Rohmer.
Eh ben, vous tombez très bien, Noël Herb, ce matin, puisque depuis hier, on peut voir des préludes de Rohmer. En fait, compte, ils sortent les courts-métrages de Rohmer. Charlotte et son stock, c'est en 51. La sonate à Kreutzer, c'est ça? Oui, Véronique et son cancre. Enfin, tous ces cours que moi-même, je n'ai pas vus. Une étudiante d'aujourd'hui, en 1966. Est-ce que c'est le cinéma de Rohmer qui est déjà présent dans ces cours? Ou c'est une autre facette de Rohmer? Est-ce qu'il faut aller les voir aujourd'hui au cinéma et pour quelle raison?
Je dirais que c'est à la fois Rohmer avant Rohmer et puis c'est un peu Rohmer contre Rohmer. C'est-à-dire que dans ces films, par exemple dans la sonate à Kreutzer, que j'ai eu l'honneur de redécouvrir à l'IMEC, hein, parce que ce film était complètement réputé perdu, c'est tout ce qu'on ne va pas retrouver dans les films de Rohmer par la suite. C'est-à-dire Rohmer acteur, Rohmer tragique, Rohmer utilisant la musique, Rohmer utilisant le commentaire, etc. C'est des choses qui va s'attacher presque frénétiquement à gommer de ces films. C'est une sorte de subjectivité obsessionnelle, désespérée, très sombre, assez misogyne parfois. Et donc on s'aperçoit que c'est un peu le repoussoir contre lequel s'est construit le cinéma de Rohmer, qui est si solaire, si lumineux, si amoureux de la vie. Mais il y a aussi des films beaucoup plus drôles, comme Véronique et son cancre, comme Nadja à Paris, qui sont déjà des portraits de femmes, où là il y a cette espèce de devenir féminin qui me fascine tant dans le cinéma de Rohmer. C'est-à-dire qu'à partir, il filme les femmes avec un tel amour qu'il en devient même une. C'est un cinéaste qui sent en lui le cœur féminin, enfin ce qu'on appelait à l'époque le cœur féminin, mais dans un sens très large, avec une sensibilité absolument unique.
Merci beaucoup d'être passé ce matin, Noël Herb. Je rappelle la sortie de votre livre, c'est aux éditions L'Arbalète chez Gallimard, Objet rejeté par la mer. En attendant le prochain, vous allez continuer dans cette veine.
Je vous en menace.
Le journal va continuer, tant mieux pour nous, pour les lecteurs. Demain, on se retrouve pour la suite de notre série avec Marion Fontaine, La classe ouvrière française, une histoire en cours, point d'interrogation. En deuxième partie, la bande dessinée comme tous les vendredis. On parlera aussi du monde du travail avec Sébastien Vincent pour sa bande dessinée éditée chez Futuropolis, Politique, Qualité. Bonne matinée. Merci d'être de plus en plus nombreux, de vous réveiller avec Un autre jour est possible. Émission préparée avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, réalisée par Thomas Duterre, avec aujourd'hui Delphine Bedet.